Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, Miloš Zeman appelle à une action militaire contre l'État islamique sous la tutelle de l'ONU. Logement social, la conception envisage un logement social en trois niveaux et la mairie de Prague 1 va louer la Villa Verich à la fondation Jan Emeda Mladek. Le président Miloš Zeman s'est exprimé ce mardi au forum international Let My People Live, organisé à Prague, conjointement par le Congrès juif européen et le Parlement européen. Il a profité de l'occasion visant à rendre hommage aux victimes de l'Holocauste pour appeler à une action militaire internationale contre l'État islamique coordonnée par l'ONU. Le chef de l'État imagine cette intervention avec la participation de tous les membres permanents du Conseil de sécurité. Miloš Zeman a également comparé la nature de l'État islamique à l'Allemagne nazie et a mis en alerte contre un super holocauste. En réaction à ces propos, le Premier ministre Bohuslav Sobotka a souligné qu'une action militaire sans la participation des pays musulmans et arabes ne serait pas soutenable à long terme, à l'instar des interventions occidentales en Irak et en Afghanistan. La coalition gouvernementale envisage la mise en place du logement social à partir de l'année 2017. Selon la conception que prépare un groupe de travail, les habitations destinées aux personnes avec les revenus modestes devraient se partager en trois groupes : les logements d'urgence, des appartements sociaux et des appartements abordables, tous gérés par les municipalités. À la conférence qui s'est tenue ce mardi au Sénat, l'adjointe au ministre du Travail et des Affaires sociales, Zuzana Jenčeš-Toklová, a énumérer les candidats au logement social. Il s'agirait non seulement des sans-abri, mais aussi des personnes vivant dans les maisons d'asile, les jeunes adultes quittant les centres d'accueil collectifs ou les victimes de la violence domestique. En République tchèque, les centres commerciaux de grande taille occupent une place de 4,5 millions de mètres carrés selon les données recueillies par l'agence Incoma. Dans les deux prochaines années, 6 nouveaux centres commerciaux devraient voir le jour. Certains projets, comme le palais Stromovka au 7e arrondissement de Prague, ont provoqué une vaste opposition des habitants locaux qui se sont organisés pour défendre les petits commerces du quartier, particulièrement menacés par un espace géant. Outre le manque du soutien populaire à certains de ces projets de construction, la question de la rentabilité de ces ensembles se pose en regardant les vitrines vides des centres pragois de Šestka et de Galerie Butovice ou encore du Forum Nova Karolina à Ostrava. Après 13 années de débats, la mairie du 1er arrondissement de Prague a décidé ce mardi de louer la Villa Verich à la fondation Jan Emeda Mladek. Située sur l'île de Kampa, à la proximité du musée éponyme, propriété également des époux Mladek, la villa a été laissée à l'abandon depuis les inondations de 2002. En 2008, la mairie a voulu louer le bâtiment à la fondation pour 40 ans pour un prix à versement unique de 23,8 millions de couronnes. Les élus ont finalement convenu que la municipalité se charge de la reconstruction de la maison de l'ordre de 30 millions de couronnes, un peu plus d'un million d'euros, et la fondation Jan Emeda Mladek payera le loyer de 600 000 couronnes, environ 22 000 euros annuels. Et nous terminons sur un mot de météo. Ce mercredi, jour de la fête des Otiliers, le ciel en Bohême est couvert et la neige vient de l'ouest. En Moravie, dans la partie est du territoire, quelques éclaircies sont encore attendues. Les températures sont légèrement en hausse et oscillent de 1 à 5 degrés pour les maximales. Et sur cela, Lucie Drexelva vous remercie d'avoir suivi ce bulletin d'information. Notre programme se poursuit avec le magazine d'actualité tchèque avec Denisa Tomanova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prague. Merci à Lucie Drexelova pour son bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, nous allons tout d'abord revenir sur les commémorations du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz qui se sont déroulées également à Prague et à Térésine. Puis nous parlerons tennis. Le joueur tchèque et numéro 7 mondial Tomáš Berdych a atteint les demi-finales de l'Open d'Australie après avoir littéralement écrasé le numéro 3 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal. Ce sera dans quelques minutes. Et comme tous les mardis, nous retrouverons la rubrique Panorama qui vous parlera de l'aménagement urbain, passé et futur de la capitale tchèque. Vous écoutez Radio Prague, excellente écoute à toutes et à tous. Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, ce mardi 27 janvier marque également le 70e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. Parallèlement aux cérémonies qui se déroulent en Pologne, la République tchèque a accompli elle aussi son devoir de mémoire à travers différentes manifestations commémoratives à Prague et à Terezín. Lundi, le président de la République Miloš Zeman et son homologue slovaque Andrej Kiska se sont rendus au mémorial de Terezín, ghetto et camp de transit pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est précisément depuis Terezín que près de 87 000 personnes ont été envoyées en direction d'Auschwitz-Birkenau, où plus de 1 300 000 prisonniers ont été exterminés. Dans le cadre de ces commémorations, la capitale tchèque accueillait ces lundis et mardis la 4e édition du forum Let My People Live, organisé conjointement par le Congrès juif européen et le Parlement européen. Cet événement veut promouvoir un dialogue entre les différentes cultures et religions. À la lumière de l'actualité internationale, la problématique de l'antisémitisme et la montée de l'islamisme radical faisaient partie des principaux thèmes de cette conférence. Dès lundi, le président du Congrès juif européen, Moshe Cantor, a inauguré le forum en affirmant que la communauté juive d'Europe était proche d'un nouvel exode, mais qu'il était nécessaire de ne pas faire d'amalgame entre musulmans et islamistes. Selon Moshe Cantor, dans certains de ses aspects, je cite, « le djihadisme est très similaire au nazisme et on peut même affirmer qu'il s'agit de deux visages d'un même mal ». Fin de citation. Suite aux différentes attaques dont a été victime la communauté juive en Belgique ou en France ces derniers mois, Moshe Cantor a appelé à la mise en place d'une législation européenne commune et à la création d'un représentant spécial qui serait chargé de la question de l'antisémitisme. Si le chef de l'État tchèque semble peu favorable à une solution législative, arguant qu'il n'est possible de désarmer les terroristes qu'avec de nouvelles armes, le Premier ministre Bohuslav Sobotka, lui, a soutenu cette proposition législative.
Je considère l'idée de ce délégué ou de ce représentant spécial comme très utile. Nous devons nous rendre compte que nous sommes confrontés à un problème auquel nous devons donner un nom. Il n'est pas possible de faire comme si tout était en ordre.
Lors de la deuxième journée du forum, cette fois en présence du président du Parlement européen, Martin Schulz, près d'une trentaine de présidents de parlement se sont mis d'accord sur une vingtaine de mesures préventives visant à lutter contre la menace islamiste, néo-nazie et antisémite en Europe. Lors de son discours prononcé au château de Prague, ce mardi, Miloš Zeman s'est prononcé en faveur, je cite, d'une action armée unifiée à l'encontre des terroristes. Nous l'écoutons.
Nous devons nous poser la question de savoir si une récidive d'une situation similaire à celle de la Seconde Guerre mondiale est possible à une plus grande échelle, et si elle pourrait inclure cette fois non pas 6 millions de juifs, mais des membres de différentes confessions, des athées et des musulmans. Souvent sous-estimé, l'État islamique possède des caractéristiques semblables à celles du régime de l'Allemagne nazie au début des années 1930. Selon moi, ce qui nous menace, c'est un super holocauste dont les victimes seraient des centaines de millions de personnes.
Quant à l'ancien président de la communauté juive de Prague, Tomáš Jelínek, il a indiqué à propos du forum.
Je crois que la question que devrait établir ce forum n'est pas tant la question de l'antisémitisme, mais plutôt la façon dont la communauté européenne va se rassembler et s'unir pour faire face ensemble à l'extrémisme, extrémisme qui provient soit de l'intérieur de nos sociétés, soit de l'extérieur, comme l'est par exemple l'État islamique.
Les commémorations se sont poursuivies ce mardi à l'ancien ghetto de Terezín en présence des présidents des deux chambres du Parlement, du ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, de délégations étrangères ainsi que des 90 survivants tchèques de l'Holocauste. De son côté, Bohuslav Sobotka représente la République tchèque à Auschwitz lors de la cérémonie organisée par le Congrès juif mondial. La 18e fois aura été la bonne en battant Rafael Nadal en 3-7, 6-2, 6-0 et 7-6 ce mardi à Melbourne. Tomáš Berdych a mis fin à une série de 17 défaites consécutives contre l'Espagnol. Surtout, le Tchèque s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Présent dans le dernier carré, comme la saison dernière déjà, Berdych, qui affrontera l'Écossais Andy Murray pour une place en finale, peut ainsi continuer à rêver à l'obtention du premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Bien sûr, les grincheux, et ils n'auront pas tout à fait tort, feront remarquer que le Nadal que Berdych a dominé ce mardi n'était qu'un Nadal de retour de blessure et encore en manque de compétition. Les sceptiques, pour leur part, noteront que Berdych n'en est pas à son premier coup d'éclat, mais que tout le problème, généralement pour lui, réside dans sa faculté à rééditer ce type de performance. Autant de considérations futiles et de supputations dont n'avait cure le Tchèque, d'abord heureux d'avoir livré contre l'Espagnol une performance dans la lignée de son début de saison et des quatre tours précédents à Melbourne. Vous les journalistes voulez toujours des détails et des explications. Vous êtes un peu casse-pied. Et pourtant ce n'est pas si compliqué. Je suis content de m'être tenu à mon plan de jeu toute la durée du match. Je l'ai déjà dit, je me sens bien, les tours précédents m'ont donné de la confiance et c'est dans cet état d'esprit que j'ai abordé ce match contre Rafa. Mais ce n'est qu'une étape. Je peux savourer jusqu'à ce soir, mais dès demain, il va falloir que je me plonge dans la demi-finale pour bien me préparer. Ce sera encore un très bon adversaire et le chemin est encore long. Flegmatique de nature et rarement dans l'excès, sûr comme en dehors du court, Tomáš Berdych a accueilli ce succès contre un joueur qu'il n'avait plus battu depuis 2006, sans euphorie apparente et avec toute la mesure et la réserve qu'on lui connaît. Vainqueur des deux premiers sets en une petite heure, le Tchèque a su garder son calme dans une troisième manche plus accrochée et finalement remporté au tie-break. Et si Berdych était naturellement soulagé et satisfait, et on imagine que pas qu'un peu, c'est d'abord parce qu'il était rempli du sentiment du travail bien fait. Les choses avancent dans le bon sens. L'important est d'avoir répondu présent et d'avoir fait le match qu'il fallait, comme on l'avait prévu avec mon entraîneur. Maintenant, ce n'est pas le moment de s'en satisfaire, le tournoi ne s'arrête pas là. Il faut continuer à regarder devant soi et à se tenir prêt. La suite pour Tomáš Berdych, ce sera donc cette demi-finale, la deuxième consécutive à Melbourne et la cinquième en grand chelem de sa carrière. Ce sera contre Andy Murray, un joueur qu'il avait battu à ce stade de la compétition à l'US Open en 2012 et qui s'est pour sa part débarrassé de l'Australien Nick Kyrgios en quart de finale. Et cette fois, le Tchèque, qui pourra compter sur les précieux conseils de son entraîneur vénézuélien Daniel Valverdu, ancien coach de l'Écossais, entend bien ne pas repartir de Melbourne avec le même sentiment de frustration que l'année dernière, où il avait été stoppé par un Stanislas Wawrinka, futur vainqueur du tournoi.
Après 25 ans de privatisation sauvage du territoire et de nombreuses affaires de corruption, la capitale tchèque s'interroge sur son avenir. Jusqu'à peu, cette question était l'affaire d'un groupe restreint dont les décisions se tenaient à l'écart. Mais récemment, la ville a fait irruption dans le débat public. Une petite révolution, certes encore fragile. Agnès Joyot et Lucia Drexlova vous invitent à rejoindre ce débat crucial aux côtés des Pragois.
Panorama.
Panorama.
Benjamin Tuček, réalisateur d'un film sur la planification urbaine à Prague.
Quand on a commencé le tournage du documentaire en 2009, personne ne voulait nous parler parmi les élus. Mais à partir de 2013-2014, l'atmosphère a clairement changé et on a débattu avec nous très volontiers.
Ondřej Boháč, ancien directeur de cabinet à la mairie de Prague.
Problém často byl u toho územního plánu funkčního, že jak byl specifický, jak byl jako hodně odborný.
L'ancien plan, trop spécifique et trop spécialisé, était seulement compris par un petit nombre de gens. Nous voulons dorénavant que chacun qui regarde le plan puisse en comprendre les règles.
Každý, kdo si to chvilku bude prohlížet, aby to jako pochopil.
Prague, 2002-2010. 20% de terrain vendu, 5 milliards de couronnes. Lucie Doleželová, urbaniste.
Mon credo, ce credo, j'ai pris dans la ville où j'habitais pendant 5 ans, c'était ici les Moulineaux. Le fameux maire d'ici les Moulineaux avait la tendance de dire que l'urbanisme n'aime pas la révolution, mais l'évolution.
Petr Gibas, sociologue.
Je pense qu'il faudrait évaluer le potentiel de corruption présent dans chaque plan. Ce débat n'a jamais eu lieu.
Lukáš Vacek, architecte.
Toutes les erreurs qui seront faites, c'est le public qui en paiera les frais. Au moment où les acteurs auront déjà réalisé leurs profits et peut-être même disparu de la scène.
Les subjekty už dávno realizovali své zisky nebo nebudou existovat.
Tunnel Blanca, périphérique de Prague. 28 milliards de couronnes estimés, 38 milliards de couronnes, prix final estimé.
Cela fait des années qu'à Prague, la ville a subi des transformations à l'insu de ses habitants. Très souvent placés devant le fait accompli, ces derniers ont développé une forme de passivité face à un sujet technique et peu transparent. Néanmoins, ce désintérêt n'est plus la règle. Au contraire, ils sont de plus en plus nombreux à s'être emparés du sujet. Lors des élections municipales d'octobre 2014, la planification urbaine est apparue pour la première fois dans le débat de la campagne qui a précédé le scrutin. Parallèlement, un documentaire sur l'aménagement territorial de Prague est sorti en salle. Il aura fallu 5 ans à Benjamin Tuček pour le tourner, aucun élu ne souhaitant discuter avec lui. Il lui aura fallu attendre la nomination de Tomáš Hudeček à la tête de la ville en juin 2013. Pour Benjamin Tuček, c'est un retournement de situation.
Tomáš Hudeček est le premier maire qui a fait du plan territorial une mission personnelle et un sujet politique. Pour la première fois, cette question a été portée au plus haut niveau décisionnel.
Si les experts en architecture et en urbanisme sont eux aussi unanimes pour saluer ce changement d'attitude, ils ne sont cependant pas tous d'accord sur l'authenticité de cette ouverture, en tous les cas pas sur la manière dont elle a été orchestrée par l'Institut pour la planification et le développement, IPR. Dépendant de la mairie et appelé Unité pour le développement jusqu'en 2013, cet institut se présente comme un centre de recherche spécialisé dans les questions relatives à l'architecture, à l'urbanisme et à la gestion de la ville. Son équipe rédige tous les documents stratégiques se rattachant au plan territorial ou à l'aménagement urbain. Spécialiste en reconversion des friches industrielles, Lucie Doleželová dénonce le caractère sélectif de cet institut.
Il y a beaucoup d'experts d'urbanistes qui se sentent exclus de la discussion. Et c'est un petit peu lié à la direction de cet institut où il y a des personnalités fortes qui évitent la discussion, on peut dire, académique et ouverte.
Lucie Doleželová déplore également la limitation du débat à la seule sphère architecturale, alors qu'urbanistes et géographes souhaiteraient parler de la ville sous un angle économique et social. Dans son relatif effort d'ouverture, la mairie de Prague s'est lancée dans la rédaction de nombreux documents ayant trait à la planification urbaine. Comme l'explique Peter Gibas, une partie de ce travail est déjà prévue par la loi.
Dans le cadre d'Institut pour la planification et le développement, il s'agit d'une documentation relative au territoire qui doit être réalisée conformément à la loi. Au-delà de cette obligation légale, il y a un plan stratégique qui devrait fédérer toute cette documentation à la faire interagir avec les dimensions culturelles, sociales et politiques.
Il y a donc, d'un côté, le plan territorial défini par la loi qui réglemente le comment construire. Ce plan est accompagné par les règles de construction, hauteur maximale des bâtiments, degré d'inclinaison des toits, luminosité des appartements et d'autre part, la possibilité de mettre en place un plan stratégique dont la vocation est de répondre à cette question : quelle ville veut-on développer ? Distincts l'un de l'autre, ces deux documents sont cependant étroitement liés. À Prague, dès la fin des années 1990, la municipalité s'était interrogée sur ses objectifs de développement urbain avant de mettre au point, en 1999, son premier plan. Un plan aujourd'hui dépassé, mais officiellement toujours en vigueur, auquel, selon la loi, un nouveau plan doit substituer. En 2008, le maire de l'époque, Pavel Bem, avait soumis un projet appelé « Conception ». Quelques 18 000 objections avaient alors été déposées par les habitants de Prague. Ce projet n'a pas abouti. Depuis, un nouveau plan est en cours de préparation. C'est l'équipe de Tomáš Hudeček qui en a lancé la réalisation. Baptisé Metropolitní plán Prahy, plan métropolitain de Prague, le nouveau plan est, selon ses auteurs, plus moderne et mieux adapté à la ville d'aujourd'hui. Nous avons rencontré Ondřej Bohač, ancien chef de bureau de Tomáš Hudeček. Il explique.
Ta funkční plocha, ten systém prostě tady v tom je blbej, protože vy dneska, když se díváte na územní plán, tak...
L'approche fonctionnelle, si je puis me permettre, ne fonctionne plus. Ce plan territorial considère Vinohrady de la même manière que l'ensemble des HLM à Haye. Dans le plan, on indique dans les deux cas la fonction habitation sans faire de différence.
Mais ce que les détracteurs de l'ancien plan lui reprochent surtout, c'est son abondante régulation et sa rigidité légale. Ondřej Bohač.
Le plan territorial est une loi. Imaginez que pour rénover votre maison, vous deviez amender une loi. C'est absurde, comme si sur la route, vous deviez modifier le code routier pour changer un panneau. Le code devrait seulement déterminer le côté de la route où les panneaux peuvent être installés.
Les auteurs du plan métropolitain ont donc adopté une approche différente, non plus fonctionnelle, mais centrée cette fois sur l'esthétique de la ville. Pour Peter Gibas, cette nouvelle approche est relativement floue. Selon sa lecture, le nouveau plan comprend la ville en termes de blocs de bâtiments, sans donner d'indication sur leur contenu. Là où l'ancien plan aurait, par exemple, refusé la construction d'un hôpital à tel endroit pour cause de connexion insuffisante au réseau. Peter Gibas.
Personnellement, je suis convaincu que l'approche structurelle sert à se débarrasser de la régulation. L'idée que la ville doive assurer certaines fonctions, comme la mise en place des maternelles, c'est terminé.
Architecte, cofondateur du Cercle des urbanistes pragois, PUK, Lukáš Vacek ne cache pas non plus son désarroi. Selon lui, la ville n'est pas un instrument pour parvenir à certaines fins. Elle forme un tout social.
Si nous voulons vivre ici, travailler ici, éduquer nos enfants ici, nous avons besoin de régulation.
Ces experts craignent notamment une privatisation sans précédent du territoire de Prague et une subordination croissante aux intérêts du privé. Peter Gibas.
Les colonies traditionnelles de petits jardins ont presque disparu. Quelques-unes ont subsisté seulement car elles faisaient partie du plan. Sans régulation, elles n'existeraient déjà plus.
Ondřej Bohač ne laisse pas ses critiques sans réponse. Selon lui, il s'agit d'une mauvaise lecture du nouveau plan.
Le plan doit donner une idée générale de la ville, montrer dans quelle direction elle doit évoluer. Par exemple, quand les gens s'établiront dans un quartier, ils pourront savoir si des gratte-ciels y sont prévus ou pas. Mais la couleur des façades ne peut pas être déterminée par ce document. Bien sûr, Prague aura toujours les moyens d'assurer les fonctions d'une ville. C'est d'ailleurs exigé par la loi. Mais la régulation n'est qu'un niveau de documentation. Le plan stratégique, lui, se trouve au sommet.
Selon Ondřej Bohač, la régulation doit dépendre des arrondissements. Mais c'est ici que nous touchons au cœur du problème. La régulation découle-t-elle du plan stratégique ou seulement du plan territorial ? Une question qui revient à se demander également qui est responsable de la régulation. En réalité, les deux approches de planification urbaine décrites ici posent un regard très différent sur ce qu'est la régulation. Pour l'équipe de Tomáš Hudeček, la régulation semble être un résidu du régime communiste et une intrusion dans la vie privée des gens. Elle est également une porte ouverte à la corruption. Quand on sait qu'avec l'ancien plan, chaque modification exigeait 3 à 4 cachets des autorités, on comprend mieux pourquoi il a été jugé opaque. En revanche, pour nos experts, régulation et corruption sont deux choses fondamentalement différentes. Peter Gibas.
Si nous ne définissons pas le processus dans le plan métropolitain, je ne suis pas sûr qu'il ait la capacité d'être meilleur parce que la régulation sert très très différemment. Personnellement, je pense que le potentiel de corruption s'accentuera avec ce plan. Je ne pense pas que l'ancien soit parfait non plus. Je ne suis pas sûr qu'on soit en train de traiter le vrai problème là.
Nejsem si úplně jistý, jestli vlastně se řeší ten správný problém tím, jak se řeší.
L'avis de Peter Gibas est partagé par son collègue Lukáš Vacek, qui ajoute:
Problém není spousta změn, problém je netransparentnost těch změn.
Le problème, ce ne sont pas les modifications en soi, c'est les processus qui les permettent et le manque de transparence. C'est pourquoi les processus de planification me semblent plus importants que le résultat. Le rôle de stabilisateur qui avait l'ancien plan a été interprété par de nombreux architectes comme un manque de flexibilité. Mais cela vient du fait qu'on n'avait pas défini une stratégie de développement. Au lieu de chercher cette stratégie, ils en ont conclu qu'il valait mieux ne pas planifier du tout et avoir plus de liberté. Mais cette vision-là ne permet pas de faire évoluer la ville.
Ale to není věc, která by město někam posouvala. Ta role města je nespochybnitelná. No, tam žádný liberalismus není.
Le rôle de la régulation est indéniable. Si quelqu'un porte les risques, c'est le public. Il doit donc avoir le droit de décider de son sort. Ici, l'approche libérale tombe. Quand on construit mal un bout de ville, c'est le public qui en paye les frais.
Alors, à qui revient la régulation? Pour les défenseurs du nouveau plan, la régulation est l'affaire des experts qui, selon les termes d'Andrzej Bohacz, sont plus qualifiés en la matière que les responsables politiques. La régulation serait la traduction technique, au cas par cas, d'une stratégie globale pensée par les élus. Pour leurs opposants, c'est à la ville de s'en charger, en commençant par conserver ses droits de propriété. Toujours selon eux, c'est également aux élus qu'il revient de dresser une vision de la ville en concertation avec ses habitants. À l'heure actuelle, le sort du plan métropolitain est incertain. Il y a 3 mois de cela, Tomáš Hudeček a abandonné son fauteuil de maire à Adriana Krnáčová. Avec une note d'espoir pour les associations de certains quartiers, dans les 7e et 11e arrondissements de Prague, ce sont leurs anciens responsables qui ont remporté les élections. Mais il est encore trop tôt pour juger de leur conduite politique. Les experts et la mairie ont donc du pain sur la planche, mais pas que. Il y a également vous, nous, les Pragois. Quelle place nous accordent-ils dans leurs discussions? Pouvons-nous participer à la planification de Prague? Et si oui, comment? La semaine prochaine, nous retrouverons nos interlocuteurs pour répondre à ces questions. Ahoy!
C'est la fin de notre émission sur Radio Prague qui vous a été présentée par Denisa Tomanova. Et pour plus d'informations au quotidien sur l'actualité française, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet au www.radio.cz/fr. Bon vent et à très bientôt de nouveau sur Radio Prague.